faites des invocations, car durant la pause durant laquelle l'imam s'assoit, c'est un moment où Dieu exauce les invocations. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa al-sadad. Le vol est un délit et un crime qui a été condamné, interdit, prohibé par toutes les lois humaines. Et donc, qui a été aussi et avant tout interdit par toutes les religions. Le vol est interdit. Il est même sanctionné, sévèrement puni parfois. Ça dépend du type du vol et de ses conséquences dans la société. Et vous savez que le vol, il y a des vols tout à fait clairs et des vols plus ou moins subtils et cachés, mais ils restent toujours illicites et interdits. Alors vous avez les vols très connus comme le vol par cambriolage, le vol à l'étalage, le vol à main armée, les bandits de grand chemin, comme cela pouvait être le cas à l'époque, ou les pirates, l'arnaque, n'est-ce pas, arnaquer, tromper le client, donc lui prendre une partie de son argent, voler en ne donnant pas ce qu'on a promis, par exemple une dot qu'on refuse de donner, alors que c'est un argent que mérite l'épouse, ou prendre l'argent d'une personne sans son consentement, l'argent qui appartient à une personne sans son consentement, sans son agrément, tout ça ce sont des formes de vol qui font beaucoup de dégâts. L'un des vols qui est les plus graves, et ça fait la une aujourd'hui, c'est de voler des enfants, de kidnapper des gens. Alors, qu'on ne dise pas qu'en islam, il est autorisé parfois de kidnapper et de voler des enfants, c'est faux. Vous savez que tout ça c'est faux, même si c'est un musulman qui le prétend. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man farraqa bayna waladin wa ummihi » Celui qui sépare un enfant de sa mère, Dieu le séparera de ses bien-aimés le jour de la résurrection. Ça n'existe pas en islam kidnapper un enfant. Ça n'existe pas. C'est condamnable bien évidemment. Quel que soit l'enfant, hein. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quel que soit l'endroit où il vit, on ne peut pas voler des biens et encore moins des vies. Qu'est-ce qui pousse, et on va s'intéresser aux musulmans, un musulman à voler? Un non-musulman qui vole, je pourrais le comprendre. Bon, c'est grave, c'est condamnable, mais si je me mets dans sa tête, je peux le comprendre. Parce que le voleur non-musulman, ce qu'il veut, c'est acquérir de l'argent, un bien, en échappant au regard des gens et au coup de la loi. Donc s'il arrive à voler en secret et à arnaquer les gens, il s'en sort bien. Il a la conscience tranquille, puisqu'il a échappé à la loi. Mais comment est-ce possible qu'un musulman, un croyant, puisse voler? C'est inconcevable qu'un homme de foi puisse voler. Parce qu'il sait que Dieu le voit et qu'il va rendre des comptes et que cet argent qu'il a volé ne sera jamais béni, qui le conduira à son malheur. Et il sait que ce qu'il a volé devait lui parvenir, car c'est sa subsistance, mais il l'a acquis d'une mauvaise manière. Et on va développer tout ça. Pourquoi dit-on que un musulman, un croyant qui a la foi, ne peut pas voler? Il est impossible qu'il vole alors qu'il a la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne commet pas la fornication ou l'adultère alors qu'il a la foi. Il ne boit pas l'alcool alors qu'il a la foi. Et le voleur ne vole pas au moment où il vole alors qu'il a la foi. C'est-à-dire qu'au moment du crime, du délit, la foi est sortie. Dieu n'est plus dans sa tête. Il a oublié Dieu. Mais la foi revient après. La foi, comme le dit le hadith, la foi est retirée et elle revient après. C'est pour ça qu'un voleur peut se repentir. La foi revient. Mais au moment où il vole, la foi a disparu. Elle est sortie de son cœur. C'est-à-dire, Dieu n'est plus dans sa tête. Et s'il savait que Dieu le voyait, il n'aurait pas volé. Vous connaissez cette histoire, le professeur qui dit à ses élèves, vous avez comme devoir d'égorger une poule dans un endroit où personne ne vous verra. Et demain, vous me ramenez cette poule que vous aurez égorgée. Et le lendemain, les élèves ramènent la bête en étant fiers. On a réussi à se cacher et à abattre cet animal. Sauf un élève. Et le professeur veut lui dire, pourquoi n'as-tu pas fait ton devoir? Et il a dit, parce qu'à chaque fois que je me trouvais dans un endroit où personne ne me voyait, je savais que Dieu me voyait encore. Donc je ne peux pas égorger cette poule sans que personne ne me voie. Dieu me voit en définitive. Donc celui qui vole, il a oublié que Dieu le voyait. Il a un problème dans sa foi. Il a un problème dans sa foi. Le deuxième problème qu'a le voleur, le musulman voleur, c'est qu'il n'a pas compris la gravité du vol et qu'il va rendre des comptes sur un centime qu'il a volé. Le prophète nous dit, le jour de la résurrection, vous serez interrogé sur quatre choses. Parmi ces quatre choses, l'argent, comment l'avez-vous gagné et comment l'avez-vous dépensé. Le troisième problème du voleur musulman, c'est qu'il n'a pas compris la question du rizq, de la subsistance. Nous, musulmans, nous croyants, nous avons comme certitude que tout ce que l'on gagne, tous les biens que nous recevons, tout l'argent que l'on peut percevoir, ce sont des choses que Dieu nous a destinées quand nous étions encore dans le ventre de nos mamans à l'état de fœtus. Le prophète nous dit qu'un ange, l'ange des matrices, est envoyé à un moment donné du développement de l'embryon ou du fœtus, et il écrit quatre choses. Parmi ces quatre choses, donc la vie de la personne, son âge, si c'est un garçon ou une fille, mais aussi son rizq, sa subsistance. Autrement dit, ce voleur qui a volé 1000 euros, il n'a pas compris que ces 1000 euros, il devait les recevoir. Il devait les recevoir, c'est sa subsistance. Cette quantité, il devait l'avoir. Mais lui, il a choisi la mauvaise manière de l'acquérir, tout simplement. C'est-à-dire que la subsistance, la quantité des biens, ou des enfants, ou tout ce que l'on reçoit de la part de Dieu, ce sont des choses prédéterminées. Maintenant, la manière de les acquérir, c'est toi qui l'as choisi. Soit tu les prends et tu les acquiers d'une manière licite, soit d'une manière illicite, illégale, illégitime. Donc, à quoi ça sert de s'empresser? À quoi ça sert de s'empresser? Tu devais recevoir cette chose, mais tu n'as fait que la précipiter d'une manière illégale. La quatrième des choses que ne comprend pas le voleur musulman, c'est que cet argent qu'il a réussi à dérober, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai, le voleur qui prend, qui vole 10 000 euros, qu'est-ce qu'il veut de ces 10 000 euros? Être heureux dans sa vie, profiter de cet argent pour se faire plaisir. S'il était véritablement croyant, il comprendrait que l'argent volé, il ne peut pas y avoir de baraka, c'est-à-dire de bénédiction, c'est-à-dire cet argent ne peut pas le rendre heureux en tant que croyant. Comment ça? Soit cet argent qu'il a volé, Allah va faire en sorte qu'il va le perdre. Et c'est vrai, il vole 1000 euros, mais Dieu, par sa sagesse, fait en sorte que dans sa vie, il perd 1000 euros. Il lui arrive un accident, des réparations qui ne devaient pas avoir lieu, mais Dieu a fait en sorte qu'il soit dans la difficulté pour qu'il dépense cet argent volé. Ou alors, un commerçant qui arnaque et qui vole, par exemple, il fait faillite, il y a le feu, un incendie dans son commerce. Au final, le voleur va regretter. Cet argent ne peut pas être béni. Impossible. C'est impossible. Également, cet argent qu'il aura volé, va le rendre malheureux dans sa vie. Et écoutez cette histoire, c'est un employé qui se plaint auprès de Abu Hanifa, ce grand savant. Et il lui dit, « Oh Abu Hanifa, je reçois comme salaire chaque mois 5 dirhams. Et cela ne me suffit pas, j'arrive pas à finir mes mois. Je suis toujours à la limite. Aide-moi. » Et Abu Hanifa va lui dire, quand tu recevras ta paye, tu rendras un dirham à ton employeur. » L'homme étonné fait confiance à Abu Hanifa et il rend un dirham quand il recevra sa paye. Mais le mois suivant, il revient auprès d'Abu Hanifa, encore plus triste qu'avant, encore plus déprimé. Il lui dit « C'est encore pire qu'avant. 5 dirhams ne suffisaient pas, 4, c'est pire. » Et Abu Hanifa va lui dire « Tu rendras 2 dirhams à ton patron. » L'homme, étonné, obéit quand même, car il fait confiance au savant, et il se suffit de 3 dirhams. Et le mois suivant, cette fois-ci, il revient avec un grand sourire, heureux, et il dit « Je n'ai jamais fait autant d'économies, je m'en suis jamais bien aussi sorti que durant ce mois où je me suis suffi de 3 dirhams. » C'est quoi ton secret, Abu Hanifa ? Il lui dit « Car les 2 dirhams, c'était un argent que tu ne méritais pas. Par exemple, tu devais travailler 10 heures, mais tu faisais exprès de travailler 8 heures. Tu devais accomplir une tâche normalement en 2 jours, tu faisais exprès de l'accomplir en 4 jours. Donc finalement, tu étais payé, parfois ne rien faire. Tu ne méritais pas cet argent. Donc il n'y avait pas de bénédiction. Tu avais certes 5 dirhams, mais comme ces 2 dirhams étaient illégitimes, tu as arnaqué ton employeur. Et si tu étais à sa place, tu n'aurais pas été content qu'on te le fasse. Parce qu'il faut savoir que le voleur... Vous savez, nous en islam, comme le dit le prophète, tu n'atteindras la foi véritable que si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et l'inverse est vrai, que si tu détestes pour les autres ce que tu détestes qu'on te fasse. Donc, à un moment donné, on a une conscience. On a une conscience. Et on a un critère qui est assez intéressant. Si cet argent, tu es capable de le prendre en disant « Bismillah », vas-y. Mais vas-y, sois sincère. Prends cet argent en disant « Bismillah ». Si tu dis « Bismillah » et tu prends cet argent, je suis d'accord que c'est un argent halal. Dites à la personne qui boit de l'alcool de dire « Bismillah ». À celui qui mange, le croyant, le musulman, manger une chose illicite de dire « Bismillah », il ne le dira pas. Dites à la personne qui vole de dire « Bismillah » au moment où il vole. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on disait que cet argent volé, au final, tu en seras privé, ou au moins de ton objectif, c'est d'être heureux et d'être aisé. Vous avez cette histoire authentique rapportée par le prophète qui s'est produite avant l'islam. Le prophète nous dit qu'un homme vendait du vin sur un bateau et il avait un singe de compagnie. C'était son animal domestique. Et qu'est-ce que faisait cet homme ? Il vendait, il mélangeait le vin à l'eau. Autrement dit, au lieu de vendre une bouteille remplie de jus de fruits, il vendait une bouteille à moitié remplie d'eau. Et évidemment, les clients ne pouvaient pas savoir, parce que c'est quelque chose qui se mélange. Donc c'est une arnaque. Et il a gagné beaucoup d'argent. Et un jour, vous savez ce qu'a fait son singe, nous dit le prophète, il a pris sa bourse, et il a grimpé sur le mât du bateau, et quand il est arrivé en haut, il a ouvert la bourse et il a trié son argent. Il jetait une pièce dans l'eau, une pièce dans le bateau, une pièce dans l'eau, une pièce dans le bateau, jusqu'à terminer sa bourse. Autrement dit, il a purifié son argent. Là, Dieu a utilisé un singe, ce qui est extraordinaire. Mais Dieu peut utiliser d'autres moyens pour justement nous priver de cet argent illicite et volé. Et d'ailleurs, le prophète nous dit que quand Dieu aime une personne, il lui fait payer ses péchés sur terre avant l'au-delà. Parce que la pire des choses, c'est que tu arrives à arnaquer les gens et que tu ne paies pas sur terre. Le jour de la résurrection, ça sera terrible. Parce que le jour de la résurrection, tu ne pourras pas rembourser les gens en argent. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Le jour où ni les enfants, ni l'argent n'aura d'une utilité, sauf pour man atallaha biqalbin salim, celui qui viendra avec un cœur pur. Donc le voleur, son argent qu'il a volé, il ne pourra pas le rendre le jour de la résurrection. Impossible. Comment va-t-il réparer son injustice ? Avec des hasanats. Autrement dit, il peut aller en enfer à cause de ce vol. Donc il vaut mieux que le voleur soit pris en flagrant délit sur terre et qu'il paie et que ça soit la honte pour lui et que ça soit un scandale, il vaut mieux ça que ça soit le scandale le jour de la résurrection. Donc c'est un bien au final qu'il soit pris ici-bas plutôt que dans l'au-delà. Nous devons, nous musulmans, briller par notre honnêteté. Sachez que la qualité essentielle que recherchent les gens chez ceux qu'ils admirent, c'est l'honnêteté. les gens de confiance. La preuve, c'est une étude, on l'avait déjà dit, mais on le répète, et c'est bienvenu aujourd'hui, une étude qui a été faite pendant 30 ans, dont les résultats sont parus, je pense, dans les années 2000, par Causes et Posner, deux chercheurs américains. Ils ont posé une question à plus d'un million de personnes sur les 5 continents. La même question pendant 30 ans, pendant 20 ans. Quelles sont les qualités premières, principales que vous recherchez chez vos leaders, ceux qui vous dirigent? Et ils ont tous répondu, toutes les personnes, la première qualité en tête de liste, durant les 20 ans, elle était toujours au top, c'était la crédibilité, autrement dit, la personne est digne de confiance. Et c'est pour ça que le prophète était appelé à son époque « As-Sadiqul Amin », l'homme honnête, digne de confiance, alors qu'il était courageux, il était généreux, il avait plein de qualités. Mais s'ils l'ont appelé l'honnête, le digne de confiance, c'est parce que c'est la qualité qu'on le recherche chez les gens. Donc nous, musulmans, on doit briller par notre honnêteté. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de vols, on doit être des exemples et des modèles. Et si le musulman vole, ça peut être très grave, parce que vous savez qu'il y a des clichés, il y a un matraquage médiatique pour salir la réputation des musulmans. Hein, les arabes, ce sont des voleurs, donc quand un arabe vole, ça peut confirmer des amalgames et des clichés. C'est pour ça que c'est doublement grave pour nous de voler. Juste cette petite histoire, cette anecdote, on dit qu'en Angleterre, un imam est monté dans un bus et qu'il a acheté, il a payé son ticket. Et le chauffeur lui a rendu plus de monnaie. Disons que le ticket coûte 2 euros, il lui a rendu, il a donné un billet de 5 euros, il lui a rendu par exemple 3,50 euros. Donc il avait 50 centimes en plus. Et quand l'imam s'est assis, il a regardé, il a remarqué qu'il avait un surplus. 50 centimes, c'est rien. Non, c'est une question de principe. Et avant de descendre, il a rendu au chauffeur les 50 centimes. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il voit à la mosquée? Qui voit-il à la mosquée? Ce chauffeur. Et il va le voir en lui disant, mais si, pourquoi tu ne m'as pas dit le jour où je t'ai rencontré que tu étais musulman, converti? Il a dit, non, à ce moment-là, j'hésitais encore. Je m'intéressais à l'islam et je me suis dit, la meilleure façon de connaître l'islam, c'est d'observer ceux qui le représentent. Et toi, tu es un imam, alors je t'ai testé avec 50 centimes, si tu étais honnête. Et l'imam a dit, alhamdoulillah, alhamdoulillah. Donc l'honnêteté, elle peut faire venir des gens à l'islam. Et la malhonnêteté, elle peut faire fuir des gens de l'islam. Donc faites votre maximum pour être honnête. N'oubliez pas que Dieu nous voit, qu'on va rendre des comptes, et que l'argent volé n'est jamais béni. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم إنا نسألك الأمانة اللهم لا تجعلنا من السارقين اللهم لا تجعلنا من الغشاشين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ألف بين قلوبنا بارك لنا في مالنا بارك لنا في صحتنا بارك لنا في جمعنا بارك لنا في مسجدنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم ارض عنا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.